Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 21 avril. Oh, petite journée pluvieuse. J'ai même de la pluie dans la voix.
Oh, comme c'est bien dit.
Ah ben, restez avec nous, hein, parce qu'on vous parle de voyage, de nature, de science. Ben, ça apportera un peu de soleil dans votre journée. Ben, je suis en compagnie de mes complices, André Étienne, bonjour. Et en compagnie aussi d'Yvan Desdoriers.
Et un beau bonjour.
Alors, la pluie, ça vous va?
Bon, de toute façon, il faut bien pour faire
mais
pousser
c'est
les
bon
fleurs.
Pour la nature.
Oui, voir les fleurs. Alors, il y a une récompense qui s'en vient.
Tout à fait. Même absolument. Les gazons, j'ai remarqué, commencent un petit peu à verdir.
Oui.
C'est bon signe. Oui. Extraordinaire. André.
Oui, alors, moi, je vais vous parler, c'est le mois de l'autisme, alors oui, c'est un incontournable, je vais vous en parler d'un article assez passionnant d'ailleurs. Et puis, en seconde partie, je vais vous parler du zona, ça, c'est pas très passionnant, hein. Ça fait assez mal, merci, mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, pour finir, des festins joyeux.
Ah,
on va finir sur une note assez...
Un peu de joie dans la journée. Yvan?
De mon côté, je vais d'abord parler de l'impact que pourrait avoir le pipeline de le projet d'énergie Est sur certains endroits naturels au Québec. Et puis après ça, bien, il va faire beau à un moment donné. Alors, je vous suggère deux endroits pour aller rouler dans des îles au Québec.
Yes!
Et Michel?
Et de mon côté, ben, vous savez que j'aime voyager. Alors, si vous voyagez malade, attention, et je vais vous parler de vaccination. Parce que si vous voyagez malade, ça peut vous tomber sur des cordes vocales. Et je vous amène faire un tour à un endroit, à une ville que j'aime beaucoup aussi. C'est Naples. Très jolie ville à découvrir. Alors, restez avec nous. Alors, tiré d'un article de Nathalie Morissette dans la presse du 1er février. Alors, vous devez vous envoler vers Miami ou d'autres destinations, vers Naples, par exemple. Et tout à coup, la veille du départ, il y a des boutons qui apparaissent sur le visage de votre petit dernier, par exemple. Et le diagnostic tombe, c'est la varicelle. Est-ce que vous devriez reporter votre voyage ou vous envoler tel que prévu? Il serait contre-indiqué de partir. Et ça, c'est la directrice des soins infirmiers à la clinique Santé Voyage de Montréal qui nous le dit. Elle a dit que récemment, dans un cas semblable, elle a recommandé à la mère d'attendre avant de prendre l'avion. Et cette dernière a fait fi des conseils de l'infirmière. À l'aéroport, la compagnie aérienne a cependant refusé de laisser la mère monter à bord avec l'enfant en raison des dangers de contagion. Lorsqu'un passager a vraiment l'air mal en point, les compagnies aériennes peuvent refuser de le laisser monter à bord.
Mais comment font-ils? Parce que c'est sûr que s'il y a des boutons plein la figure,
ouais, là, ça
c'est
apparaît. Dans d'autres cas, c'est moins évident.
Qu'est-ce qui se passe?
Après consultation, on nous dit qu'ils font affaire avec une agence de santé externe qui les conseille. Donc, il y a quelqu'un sur place. C'est pas simplement l'agent de bord qui dit « Ah, vous avez l'air malade. Okay. » Il faut que ça soit plus profond.
Fait qu'on peut avoir accès à un médecin à l'aéroport, finalement.
Tout à fait. Absolument. Après consultation, il est possible qu'on refuse des gens. Par exemple, une sinusite sévère ou une otite, bon, ça peut avoir l'air banal, mais c'est des bonnes raisons pour repousser le voyage. La pression dans l'appareil peut entraîner beaucoup de douleurs et même une perforation du tympan. Alors, le résultat, il arrive que le pilote soit obligé d'atterrir d'urgence, certainement pas souhaitable. Hein?
Non.
Et dans le cas d'un rhume, d'une grippe, d'une gastro-entérite, il n'est pas nécessaire de renoncer à son séjour. Par contre, il faut respecter les principes d'hygiène de base. Se laver les mains, par exemple, il me semble que c'est minimal. N'oublions pas que l'avion, ça demeure un lieu où les risques de contagion sont les plus grands. Ça arrive souvent qu'au retour d'un voyage, on va avoir un rhume. Ben oui, on est dans un vase clos. On a une ou deux salles de bain pour 200-250 passagers.
Ouais. L'air est sec. C'est pas grand en plus, hein?
Ben non. Et dans l'avion, l'air est sec. Alors, les microbes sont en bon terrain pour se propager. L'assurance annulation est généralement facile à obtenir et vous devriez vous la procurer lorsque vous effectuez les réservations pour votre voyage au cas où des circonstances imprévues vous empêcheraient de voyager.
Mm-hmm. Mais quand on paye avec notre carte de crédit, est-ce que ça n'inclut pas une assurance
annulation? Dépendant des cartes de crédit. Il y a certaines cartes de crédit que c'est bon pour 3 jours et d'autres que c'est, ça peut être plus intéressant. C'est à vérifier avant de partir.
Oui, hein.
Il faut vraiment faire cette vérification-là. Les vaccinations maintenant, ça c'est vraiment essentiel si vous partez, particulièrement certaines destinations. Bon, hépatite A et hépatite B. La vaccination contre l'hépatite A et l'hépatite B est recommandée à tous les voyageurs, y compris les enfants, hein? Et ce, quelle que soit la destination. Les hépatites A et B sont des maladies virales qui attaquent le foie. Donc, c'est très sérieux. Hein?
Puis ça, on en entend parler beaucoup à la télévision, mais comment ça se transmet, ces maladies-là?
L'hépatite A se transmet principalement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Donc, okay. Ça peut être un peu n'importe où. Hein? Elle peut se contacter dans de nombreux pays, y compris dans des destinations touristiques populaires. Je pense dans le sud, là, les gens qui vont, les tout compris. Ça, ouais. Et l'hépatite B, pour sa part, se transmet principalement par les relations sexuelles non protégées. Et c'est un contact avec le sang. Bon, ça, c'est pour l'hépatite A et l'hépatite B. La diarrhée du voyageur, la tourista.
Oh là là. Est-ce qu'il existe une vaccination? Parce que maintenant, il existe des vaccins pour presque tous.
Oui, j'ai été très étonné de constater, et je crois que c'est récent, qu'il existe un vaccin qui protège contre la diarrhée. Ce vaccin-là est recommandé si vous voyagez dans certaines parties du monde à risque. Par exemple, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique de l'Est, l'Asie, le Moyen-Orient. Il est également recommandé si vous voyagez avec un jeune enfant et même si vous allez dans une station balnéaire, les tout compris, là. Les jeunes enfants sont en effet plus à risque de souffrir de déshydratation et d'autres complications liées à la diarrhée du voyageur. Mm-hmm. Ne pas confondre la diarrhée du voyageur avec l'abus d'alcool. J'ai fréquemment vu cette chose. J'ai la tourista. Non, mon ami, t'as trop bu.
Ah, c'est vrai que j'ai confondu.
Il y a d'autres endroits propices à, par exemple, la malaria.
Alors, je vais encore poser la même question. Est-ce qu'il existe un vaccin contre la malaria?
Il n'y a pas de vaccin contre la malaria. Cependant, il y a la prise de médicaments. Et pour être efficace, ces médicaments-là doivent être pris au moins une semaine avant le départ et durant tout le séjour, bien sûr, et parfois 1 à 4 semaines après le retour aussi. Okay. Mais la médication n'est pas valide à 100 %. L'anophel qui propage la malaria, le moustique qui propage la malaria, s'est habitué à la médication, malheureusement. Vous savez, malaria, on dit particulièrement malaria pour l'Amérique du Sud et paludisme pour l'Afrique, oui. Particulièrement. Et c'est très, très fréquent. Hein. C'est même présent dans certaines régions de la République dominicaine. Donc, attention, c'est pas parce qu'on va dans un tout compris qu'on est à l'abri.
C'est peut-être tout compris.
Oui, ça peut être compris, absolument. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup d'autres choses aussi. Si vous voyagez plus loin, vous avez la typhoïde, vous avez la fièvre jaune. Donc, il y a des vaccins dans tous ces cas. Il faut se renseigner auprès d'une clinique voyage. Avant de partir, c'est fondamental. Ils vont vous indiquer les régions qui sont à risque. Ils vont vous mentionner exactement le vaccin qui est propice. Et il ne faut jamais prendre de chance. C'est fondamental. C'était à partir d'un texte de Nathalie Morissette dans la presse du 1er février.
Alors, mon texte s'intitule « La roulette russe d'énergie Est ». C'est le sommaire d'un texte qui a été écrit par Antoine Dion Ortega et Pierrick Blain dans Géoplénaire de mars-avril 2015. Le projet de pipeline énergie Est, dont la construction doit commencer en 2016, c'est une longueur totale de 4500 km. 1,1 million de barils de pétrole brut transportés du terminal d'Hardisty en Alberta à celui de Saint John au Nouveau-Brunswick. Au Québec, Énergie S s'étendrait sur 732 kilomètres.
Donc, ça veut dire à peu près 3 fois, ou peut-être un peu moins, la distance Montréal-Québec.
Exactement.
Ah, quelle précision!
Mon Dieu!
Avant de
prof de maths.
732 kilomètres avant de descendre au Nouveau-Brunswick, traversant au passage 970 cours d'eau. pour TransCanada, exploiter de façon sécuritaire des pipelines surpasse toute autre considération, déclarait le 20 novembre un porte-parole de la société. À voir l'ampleur du projet Énergie Est, le plus important en Amérique du Nord, on souhaite qu'il dise vrai. En plus des impacts de sa construction sur le patrimoine naturel des deux provinces, il poserait un risque permanent pour des centaines de milliers de Canadiens durant ses 40 ans d'existence prévue. Il faut dire qu'au Canada, les chiffres en matière de pipelines n'ont pas grand-chose de rassurant. De 2000 à 2011, sur les 70 000 km de lignes nationales, le taux d'incidents a augmenté, passant de 45 à 142. Parmi ces incidents, la proportion de fuites a triplé. TransCanada a pesé lourd dans ce triste bilan. Sur les 1047 incidents dénombrés durant la période, plus de 240 lui sont attribués. Et rien n'indique que les choses s'améliorent avec le temps. La portion canadienne de sa ligne Keystone entre l'Alberta et le Manitoba a déjà connu 60 incidents depuis sa mise en service en 2010, bien qu'aucun n'ait été majeur. TransCanada prévoit déjà que les 1584 km de nouvelles lignes incluses dans son projet, les deux tiers au Québec et au Nouveau-Brunswick, devraient connaître en moyenne une demi-fuite par an, soit une aux deux ans. Certes, il s'agirait dans 95 % des cas des fuites inférieures à 160 000 litres, mais les Québécois devront s'y faire. Un pipeline, comme n'importe quel tuyau, ça finit par couler. Dans ses annonces, TransCanada vante régulièrement son système de détection des fuites qui surveillera en permanence la pression et l'équilibre de la masse dans le pipeline. Or, l'histoire récente démontre que les logiciels utilisés détectent rarement les fuites. Selon l'agence d'information américaine Inside Climate News, de 2002 à 2012, aux États-Unis seulement, 5 % des fuites ont été détectées par les systèmes informatiques, 22 % ont été rapportées par le public et 62 % par des employés qui se trouvaient là par hasard. Même pour les pertes de grande quantité, c'est-à-dire plus de 160 000 litres, pourtant réputées plus faciles à détecter, 80 % sont passées sous le radar. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit différent avec Énergie Est, à en croire le président d'Acufax, une firme américaine de consultation spécialisée dans les pipelines. Les pipelines de l'Amérique du Nord sont encombrées de systèmes de détection qui génèrent trop de fausses alertes, et quand vous en avez une vraie, elle est ignorée. Au Michigan, en 2010, il a fallu 17 heures à Enbridge pour confirmer un déversement dans la rivière Kalamazoo. Les multiples alarmes lancées par son système de détection ayant été négligées. Résultat, 3,3 millions de litres de bitume dilués s'étaient écoulés. Voici maintenant deux perles naturelles du Québec. L'article parle de 6 potentiellement victimes d'Énergie Est. Commençons par le lac Saint-Pierre. Désigné réserve de la biosphère par l'UNESCO en 2000, le lac Saint-Pierre, entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières, réunit à lui seul plus de 40 % des milieux humides du fleuve Saint-Laurent et constitue une halte majeure pour quantité d'oiseaux migrateurs. D'ailleurs, l'article nous disait que c'est la plus grande héronnière de l'Est de l'Amérique du Nord. Cette profusion d'espèces d'oiseaux marins en fait un haut lieu d'observation ornithologique de la chasse et de la pêche. Pour les décennies à venir, il sera particulièrement exposé à une fuite de pipeline Énergie Est qui parfois passe à moins de 4 km de sa rive nord. Celui-ci croisera en outre 7 de ses affluents, une perspective qui inquiète un connaisseur de la région. Le pétrole qui pourrait fuir de ces rivières ne serait pas évacué par le canal de navigation, parce que les eaux ne se mélangent pas. Ils se concentreraient plutôt sur la berge et les marais, contaminant toute la chaîne alimentaire. C'est un mode de vie qui s'effondrerait, alors certains pêcheurs commerciaux fréquentent le lac depuis 10 générations. Le festival de la gibelotte de Sorel-Tracy ne pourrait plus vendre de gibelotte, ajoute-t-il. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune compagnie qui soit capable de chiffrer ces dommages-là, parce que leur impact est autant scientifique que culturel. Allons maintenant quelques instants à Kamouraska. Depuis l'âge de 17 ans, Claudie Gagné, parcourent les battures du bas du fleuve à la recherche de plantes comestibles telles la salicorne et l'épinard de mer. Originaire de la région, elle a fondé en 2000 son entreprise et propose des herbes fraîches et des mélanges aromatiques séchés. Elle compte parmi ses clients des restaurants prestigieux à Montréal et à Québec. Claudie n'a nullement besoin d'un dessin pour comprendre que l'impact que créerait une nappe de pétrole sur ses chairs battures, inondées à marée haute, celle-ci recueille tout ce qui se trouve sur la surface de l'eau. Je sais qu'en eau froide, le pétrole reste là vraiment longtemps, dit-elle. Ce n'est pas comme dans le golfe du Mexique où les bactéries viennent aider à la désintégration. Elle inscrit désormais sur chacun de ses pots « produits menacés par le développement pétrolier dans le Saint-Laurent ». C'était un sommaire d'un article écrit par Antoine Dion Ortega et Pierrick Blain dans Géoplénaire de mars-avril 2015.
Des arbres se penchaient plus fort que tout. Accrochés aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumé de craquer et tout part. En fumée pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Sans se parler, autour de nous le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés des poussières dans les cheveux, au long de mes jambes, la caresse du feu. J'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
Eh bien, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme depuis 1984, et c'est donc un article sur l'autisme décrit comme « Un monde en soi » de Québec Science d'avril-mai 2015, écrit par Marine Corniou, que je vais partager avec vous. Alors, c'est Brigitte Harrison, qui est conférencière et auteure elle-même diagnostiquée autiste à 38 ans, qui nous livre sa propre définition et sa vision personnelle de l'autisme, qui touche, sachez-le, au Québec, 80 000 personnes. Elle dit textuellement, je lis, « L'autisme, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je suis. C'est une autre façon d'être. Nous ne donnons pas le même sens que vous au monde. Ce n'est pas un trouble de comportement, pas un problème d'habileté sociale, encore moins un problème de déficience intellectuelle. C'est un problème de connexion dont les impacts sont développementaux. C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est physique et involontaire. Trois points, explique-t-elle, différencient les autistes des neurotypiques. La particularité de perception, la particularité des représentations mentales et la particularité des émotions.
Oui, mais neurotypique, qu'est-ce que ça veut dire?
Ah oui, ben j'ai cherché sur Internet.
Bien.
Alors, c'est un terme qui est inventé par la communauté autistique pour qualifier les gens qui ne sont pas atteints par des troubles du spectre autistique. Alors, donc, je reprends les particularités de perception. Par exemple, elle dit, en entrant dans une pièce, elle ne se met pas à compter les tuiles, mais son cerveau dit instantanément qu'il y en a 600. Par contre, elle précise aussi que lorsqu'elle nous parle, elle doit se concentrer sur nous et se rappeler sans cesse qu'elle parle à une neurotypique. Vous savez ce que c'est qu'une neurotypique maintenant? Alors, dans les particularités de représentation mentale, elle explique que leur cerveau ne leur donne que du concret venu de l'extérieur. Ils ne traitent que ce qu'il reconnaît et a donc des difficultés de flexibilité et de planification. Enfin, particularité des émotions, les autistes n'ont pas les mêmes déclencheurs d'émotions puisque leur cerveau est concret et non social.
Qu'est-ce qu'on entend par un cerveau non social?
Oui, c'est troublant hein, comme formulation. Mm-hmm. Elle dit que les autistes sont des aveugles sociaux. Par exemple, si un interlocuteur soupire parce qu'il est fatigué d'être avec elle, elle ne voit pas ce signe. Elle ne peut donc pas en tenir compte dans son comportement. Alors, on les accuse d'impolitesse. Mais accuserait-on un sourd d'impolitesse s'il ne tournait pas la tête vers quelqu'un qui lui dit bonjour? Leur cerveau, à eux, ne capte pas le social car il est connecté autrement.
On dit parfois que le cerveau d'un autiste est plus visuel. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est un petit peu vrai. Mais ça signifie que si une personne, par exemple, qu'un autiste connaît, qui change d'aspect, et il suffit, par exemple, une simple coupe de cheveux, l'autiste, il doit, dans son esprit, reconstruire l'image et l'associer à ce qu'il connaît. Et tout ce fait travaille manuellement, dit-elle.
Manuellement? Qu'est-ce que ça
veut dire? Oui, manuellement, c'est drôle aussi. Elle utilise un vocabulaire un peu particulier, ouais. D'ailleurs, hein? Elle dit que leur cerveau est connecté autrement. C'est vraiment un problème de connexion. Et ils ne demandent pas la même gestion que le cerveau, notre cerveau de neurotypique. Il fonctionne un petit peu comme une automobile à transmission manuelle. Et de ce fait, il leur faut stabiliser l'information parce que le système qui la fait entrer coupe un peu, comme si on coupait l'électricité dans une maison. Ils leur font donc entrer les informations une à la fois. Et les autres, les neurotypiques, ont l'impression que les autistes sont dans leur bulle. Et dans la bulle, il n'y a plus rien qui fonctionne à ce moment-là. Brigitte dit qu'elle ne peut ni penser, ni parler, et qu'elle est comme en état de veille, comme un ordinateur qu'on met en veille.
Est-ce que c'est vrai que la perception sensorielle chez les autistes est plus aiguisée que chez les autres?
Elle en parle aussi de cet aspect-là et elle dit justement que la perception sensorielle pour elle est difficile parce que leurs yeux doivent tout recevoir, d'où un délai de traitement qui donne l'impression qu'ils sont lents parce qu'ils ne peuvent pas traiter les informations à la même vitesse que nous. Elle explique par exemple que si quelqu'un la touche sans qu'elle prévoie le geste, cela peut causer en elle un déséquilibre et elle peut ressentir ça comme une agression. Donc, on a un petit peu l'impression que leur perception sensorielle est plus aiguisée, mais pas vraiment dans les faits, en fait.
Est-ce que c'est ce sentiment qui empêche les autistes d'aller facilement vers les autres et qui donne parfois l'impression de ne pas aimer être touchés?
Oui, alors là, elle précise qu'ils n'ont pas l'intention de rejeter les contacts ni de refuser l'attachement, mais pour eux, il faut recevoir de l'aide pour devenir affectueux, pour atteindre leur système d'émotion. Sinon, ils sont en mode survie et leur réaction de rejet n'est pas contre l'autre, mais pour soi. Mmh. En ce qui concerne le contact, le problème est dans la façon dont il se produit et c'est l'improvisation qui est rejetée. Leur difficulté à l'accepter vient du fait qu'il faut être concentré pour traiter l'information du toucher. Il ne faut pas qu'il soit inattendu.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dont l'enfant vient d'être diagnostiqué autiste.
C'est un problème qui est délicat. Alors, il faut leur dire plusieurs choses, dit-elle. Il faut leur dire que l'autisme n'est plus une fin en soi. C'est un point de départ. Et que lorsqu'on comprend comment l'autiste fonctionne, on peut l'aider à se rendre plus loin. Il faut leur dire que les troubles du spectre de l'autisme sont présentés comme s'il s'agissait de déficiences intellectuelles ou de problèmes de comportement. C'est juste la méconnaissance de l'autisme qui fait que les résultats sont mauvais. Et Brigitte Harrison dit encore, et je cite, « Tout le monde parle au nom des autistes et c'est un ridicule incroyable. C'est pour ça que ça ne marche pas, on nous prend pour des roches. Et c'est aussi pour cela que les parents ne savent plus où donner de la tête. » Alors quand les gens vont comprendre ce qui appartient aux autistes, quand les signaux seront mieux connus, il y aura moins de confusion. Ce sont des extraits du dossier de Québec Science d'avril-mai 2015 de Marine Cornioux et Dominique Forget sur l'autisme.
Merci André. On est fort. La compétition amicale internationale Winter Bike to Work Day. Ça se passait le 13 février dernier. Winter Bike to Work Day, là, c'est prendre son vélo pour aller travailler. Veut promouvoir le cyclisme d'hiver pour aller travailler. Il en résulte un classement mondial des villes qui s'établit par le nombre de participants qui s'inscrivent à l'événement. Montréal arrive deuxième derrière Oulu en Finlande, ville universitaire de 142 000 habitants, et Québec se situe en 13e position derrière Reykjavik, qui était 12e, et Ottawa, 10e. Winnipeg, Calgary et Edmonton raflent respectivement les 3e, 4e et 5e places. Moscou est en 18e position, Toronto en 25e et Paris en 27e.
Des peanuts dans le biberon? Bon, l'allergie aux arachides, ça prend des proportions épidémiques. Et au cours des 10 dernières années, la prévalence a doublé dans les pays occidentaux. Alors, pour que les enfants cessent de gonfler à l'approche d'une peanut, la solution serait de leur en faire manger régulièrement et de commencer avant qu'ils aient 11 mois. C'est contre-intuitif, hein? Mm-hmm. Et c'est pourtant ce que démontre une étude qui a montré que 640 nourrissons à fort risque à développer des allergies. On a fait cette étude sur des bébés âgés entre 4 et 11 mois. On a séparé en deux groupes. Le premier s'est vu interdit à la consommation d'arachides jusqu'à 5 ans. Et le second, on a introduit très tôt dans les purées. À 5 ans.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Bon,
André,
alors j'ai fini quand même.
On te permet de
oui, je vais quand même finir. Hein? Donc, deux groupes, l'un avec des purées d'arachides et l'autre non. Et à l'âge de 5 ans, presque 14% des enfants du premier groupe étaient allergiques, contre seulement 2% de ceux qui avaient mangé des cacahuètes plus jeunes. Voilà donc ce qui confirme que les allergologues soupçonnent depuis longtemps. En voulant être trop prudent, on rend les petits trop sensibles. Mmh. Pas sûr que j'essayerais, par exemple. Hein?
Alors maintenant, ça nous amène à Naples. Et c'est Marie Tison qui nous en parle dans la presse du 14 février. On sait que Naples n'a pas toujours eu une bonne réputation. Hein. C'est pourtant une cité absolument fascinante. Avec 3000 ans d'histoire, elle a particulièrement vu se succéder les Grecs, les Romains, les Normands, les Espagnols et les Français aussi. Et la ville, quand même 2 millions d'habitants, réserve des trésors d'architecture. La circulation est particulièrement chaotique, donc il est préférable de visiter Naples à pied ou en transport en commun. Une autre façon agréable aussi, comme dans plusieurs villes du monde, comme je viens de le faire à Dubaï, entre autres choses, c'est ce qu'on appelle les « hop-in, hop-off ». Vous savez, ces autobus où vous pouvez débarquer, embarquer où vous voulez, trouver des points de repère. Si vous avez peu de temps, c'est une très agréable façon de le faire.
Même si on a du temps.
Oui, tout à fait. Pour une première découverte, pour savoir où arrêter par la suite.
Ouais.
La vie quotidienne napolitaine suit son cours sur la Piazza San Gaetano. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà une agora à cet endroit-là. Aujourd'hui, dans ce quartier, les églises historiques se pressent à chaque coin de rue. Et ça réserve des surprises, hein? Par exemple, un intérieur gothique qui est caché derrière une façade baroque. Et ça, c'est l'église San Lorenzo Maggiore. Il y a un endroit intéressant qui est le musée, ben, plusieurs endroits intéressants, mais en particulier le Musée archéologique national.
Bon, moi, je pose toujours cette question-là parce que je suis d'une curiosité insatiable. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce musée?
D'abord, premièrement, c'est l'un des plus riches d'Europe. Bon. Puis, ce qui est encore plus particulier, c'est le célèbre cabinet secret qui est interdit aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés. Et vous savez pourquoi?
Non.
Non.
Parce qu'il expose les œuvres et objets érotiques. Les objets érotiques qu'on avait trouvés lors des fouilles à Pompéi. La salle des mosaïques de Pompéi et d'Herculanum est aussi intéressante à visiter. Parce qu'il est difficile de croire que ces représentations de dieux et d'événements historiques, d'animaux, ont près de 2000 ans. Et c'est très, très bien conservé. Hein, d'une collection de statues romaines qui est accessible aussi. Autre endroit, particulièrement s'il fait très chaud, c'est les catacombes. Descendre dans des catacombes pour se rafraîchir les idées. Particulier, hein?
Vraiment, drôle d'idée.
Non, c'est intéressant à visiter.
Tout est particulièrement frais à cet endroit.
Ben oui, c'est ça. Ça a été creusé entre le 2e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Ils ont notamment accueilli temporairement les restes de San Gennaro, qui est le patron de Naples. Il reste des fresques fort intéressantes qui représentent les défunts. Et se rendre aux catacombes et en venir permet de passer par le quartier populaire de la Sanita. Mais attention, dans ce coin-là, il n'y a pas de trottoir ou les trottoirs sont rares. Et vous savez que les automobilistes, en Italie et en Naples particulièrement, automobilistes et motocyclistes, hein, ils sont là pour vous voir et pas nécessairement pour vous éviter. Ils sont... Ah, mais c'est le cas quand même, à Rome en particulier. Il y a l'Antica Pizzeria da Michele.
Oh, ça, c'est intéressant,
Michel,
ça.
Il y en a partout à travers la planète. Hein, c'est Miguel, c'est Michele. C'est le Schwartz de Naples. Ah. Et il faut attendre sur le trottoir dans la rue avant de pouvoir pénétrer dans ce resto familial. Le choix est assez simple, hein, c'est facile, on a deux types de pizza, margherita et marinara. Et ouais, j'ai été à cet endroit-là, bon, mettons que c'est différent. Il y a la station de métro, la station de métro Toledo. Est un peu brûlée, en fait, lorsque j'ai eu cette pizza-là. Station métro Toledo. Il n'est pas facile de construire un métro à Naples. Vous savez pourquoi, hein? Parce que le sous-sol regorge de ruines et d'artefacts. Et on est obligé d'arrêter à ce moment-là. Ouais. Excusez-moi, la voie avait rendu dans les catacombes. C'est ainsi qu'en creusant pour établir la ligne 1, on a découvert une partie de la muraille de la ville à l'époque des Aragons, à la fin du 15e siècle. Et on en voit des restes à l'entrée de la station Toledo. Mais il faut descendre plus bas, au tréfonds de cette station, pour comprendre pourquoi on dit qu'il s'agit d'une des plus belles d'Europe. On y trouve d'immenses mosaïques bleues qui évoquent la mer.
Wow.
Très agréable. Puis, une chaussette dans Spagnola.
Spagnola?
Oui.
On n'est pas en Italie encore?
Oui, oui, étonnant. Hein? On appelle Spagnola le quartier parce qu'il a abrité des soldats espagnols au 17e siècle. Et les ruelles sont incroyablement étroite et intéressant, et on le trouve à plusieurs endroits en Italie, en Sicile par exemple, c'est que les habitants font sécher le linge au-dessus de la tête des passants.
Oh.
D'une fenêtre à l'autre.
Là, c'est génial, moi j'adore savoir ça.
C'est une magnifique. Autre forme de fraîcheur.
C'est vraiment... Oui, c'est ça, une autre.
Ils
n'ont
pas de machine à saurer.
Et vous avez un endroit aussi où on peut se réfugier, particulièrement s'il y a un orage comme nous ici, c'est la Galleria Umberto. Après les ruelles étroites de Spagnola, il y a les immenses espaces lumineux de la Galleria Umberto, qui offre un contraste tout à fait saisissant avec ce qu'on vient de décrire au préalable. Il y avait un quartier populaire, mais il a été rasé après une épidémie de choléra en 1885. Et on l'a remplacé par cette immense verrière qui est en forme de croix et qui est surmontée au centre par un dôme monumental. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à visiter. Et on y trouve des boutiques chics et des cafés branchés. C'était un petit tour d'horizon de nappe, simplement comme on l'aurait fait avec un hop-in, hop-off, si vous voulez. On entre une place, on rentre, on retourne, on va à la Galerie Umberto, on va dans Spagnola, on va dans les catacombes, enfin.
Moi, je sens que Marie va me demander d'y aller.
Ah oui, elle aura bien raison.
C'était Marie Tison qui nous en parlait dans la presse du 14 février.
Alors, maintenant, je vous amène à vélo. D'île en île, c'est un article que j'ai trouvé qui a été écrit par Gaëtan Fontaine le 24 février sur le site de Géoplanaire. Et je commence par la région de Chaudière-Appalaches, l'île aux grues pour les jeunes familles.
Bon, je commence avec une question.
Vas-y.
Où est-ce que c'est l'île aux grues?
L'île aux grues, là, c'est plantée au beau milieu de l'estuaire du Saint-Laurent. Ça baigne à environ 60 km en aval de Québec, à la hauteur de Montmagny, et elle fait partie d'un archipel qui compte 21 îles et îlots. On peut y aller par traversier à partir de Montmagny. Renseignez-vous, par contre, pour les heures et les jours, là, ça ne doit peut-être pas fonctionner pendant toute l'année. D'une grande splendeur, elle est taillée sur mesure pour une petite virée familiale, le temps d'une fin de semaine. Longue de 10 km et large de 1,5 km, son petit format se prête parfaitement au calibre des jeunes cyclistes qui commencent à pratiquer le vélo ou à celui des adultes néophytes. De forme très légèrement bombée, l'île dispose de routes qui se parcourent sans effort et qui sont pratiquement exemptes de voitures. Avec sa population de 130 habitants, disons que les bouchons se font rares en ville. Voilà certainement un facteur déterminant pour une sortie vélocipédique avec sa jeune progéniture. Pas besoin d'être doté d'un grand sens de l'orientation pour s'y déplacer. Il n'y a que trois routes principales, dont deux bitumées. Le chemin du quai, qui traverse l'île perpendiculairement sur 1,5 km, et le chemin du roi, qui longe la portion nord de l'île sur 5 km, les deux sont asphaltés. Le chemin de la Batture sur 7 km, situé dans l'est de l'île, est une petite route de gravier qui se tortille parmi les hautes herbes d'un des plus populaires marais de l'est de l'Amérique. Où que vous soyez sur l'île, l'enchantement est au rendez-vous. Que du beau partout, dans une ambiance d'une autre époque, celle où le rythme du quotidien se conjuguait à l'échelle humaine.
Que c'est bien dit. Moi, je pense que je vais aller me tortiller bientôt en vélo sur l'île aux grues.
Et tant qu'à y être, passez par la réserve naturelle Jean-Paul Riopel. Cette réserve, nommée en l'honneur du peintre Jean-Paul Riopel, qui a habité l'île pendant de nombreuses années, est située à l'extrémité ouest de l'île, à la Pointe aux Pins. Cette parcelle boisée de 48 hectares héberge une érablière tricentenaire désignée comme un écosystème exceptionnel. Nous vous suggérons fortement de découvrir ce lieu unique en allant marcher sur un des trois sentiers de courte randonnée, 2,5 km au total, agréablement adaptés aux jambes des genoux. La multitude de vues sur le fleuve et l'archipel vous donnera le tournis.
On veut bien la voir.
Mais maintenant, je vous amène ailleurs.
D'accord.
À l'île d'Orléans.
Ah oui,
oh, oui.
C'est tout près, hein?
Ouais, oui.
L'île d'Orléans est sans aucun doute une des destinations champêtres par excellence de la belle province. Pour aller à la rencontre de cette perle rare, un peu figée dans le temps, rien de tel que d'enfourcher sa bécane pour une virée épicurienne. Et je l'ai fait. L'île est bordée par le chemin royal, c'est la route 368 qui en fait le tour. Et quel tour! Le panorama est d'une telle magnificence qu'il mériterait une appellation contrôlée. La rive nord de l'île enchaîne une suite de perspectives avec comme toile de fond la chaîne de montagnes Laurentienne, alors que la rive sud laisse voir une belle plaine côtière qui se perd dans l'horizon infini de l'estuaire du Saint-Laurent. Le parcours en soi n'est pas ardu, mais ce n'est pas plat comme une crêpe, et le facteur vent n'est pas à négliger. La pointe ouest de l'île, la plus escarpée, représente la partie la plus exigeante, avec une grimpette frôlant le kilomètre. Sinon, la route épouse les flancs légèrement ondulés de l'île Bacchus, ainsi nommé par Jacques Cartier lors de sa venue en 1535 en raison de la présence de grasses vignes. Pour l'essentiel, la route se déploie dans un territoire riche et diversifié. La culture maraîchère prédomine, mais d'autres producteurs ont pignon sur route, dont un viticulteur et un producteur de cassis. Tout au long du chemin royal, on croise aussi des boulangeries, des boutiques artisanales, des kiosques de fruits et légumes, des chocolateries et des endroits délicieux où s'arrêter pour casser la croûte ou siroter un bon et vivifiant café. Pour vous reposer entre deux coups de pédale, allez tremper vos orteils à la plage municipale de Saint-Jean ou arrêtez-vous à la superbe halte aménagée de Saint-François où est érigée une tour d'observation du haut de laquelle vous bénéficierez d'une des plus spectaculaires vues sur le Saint-Laurent. N'est-ce pas que ça met en appétit tout ça?
Oui, en faisant... oh, excusez ma voix. En faisant un tour de l'île, est-ce que tu nous parles pas de Félix Leclerc?
Eh bien sûr! En raison de son important héritage culturel, l'île d'Orléans a obtenu en 1970 le statut d'arrondissement historique en vertu de la loi sur les biens culturels. Nombreux sont les artistes qui, de diverses façons, ont fait valoir les charmes de cette île si particulière dans l'histoire québécoise. Un de ses résidents les plus importants qui a marqué de son sceau la béatitude de l'île, c'est évidemment Félix Leclerc, qui y a habité plusieurs années. Une de ses plus célèbres chansons est justement « Le tour de l'île ». Puis moi, quand je l'ai fait, je chantonnais juste le refrain.
Ah oui?
Alors là, dans quelques instants, on va l'écouter en entier, puis je vais essayer d'apprendre quelques paroles de plus. Où il s'épanche sur la douceur de ce lieu unique. Pour un survol de sa vie et de son œuvre, faites un saut à l'espace Félix Leclerc. Vous pouvez en avoir des informations au site mrc.iledorleans.com ou bien sur le site félixleclerc.com.
Il était lyrique, hein? Vraiment, ça nous donne envie d'y aller.
Alors, c'était deux petites traversées de vélo d'île en île. C'était écrit par Gaëtan Fontaine au mois de février sur le site de Géoplanaire et ça poursuit avec le tour de l'île.
Comme chair de femme et en juillet. Le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les soies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui c'est vrai, écoute
encore.
sous un nuage, près d'un cours d'eau. C'est un berceau et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal. C'est comme en France, le tour de l'île, 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays.
Vraiment, merci beaucoup. Cette chanson de Félix Leclerc est absolument extraordinaire. Eh bien, moi, je vais vous parler de quelque chose de pas mal moins sympa. C'est le Zona. C'est un article extrait de Montréal en santé de l'hiver 2015 qui est écrit par Dr. Mitch Schulman. Alors, il dit que c'est un virus de l'enfance qui revient avec vengeance. Oh. C'est drôle, hein? Alors, il nous met en situation. C'est un monsieur de 56 ans, se meurt traité, qui se présente aux urgences avec une éruption cutanée douloureuse sur le long de son corps du côté droit. Ça faisait une journée environ qu'il sentait de la douleur, puis des ampoules sont apparues, et ça lui donnait la sensation que toute la région était en feu. Le médecin a besoin juste d'un coup d'œil pour confirmer que c'est une forme d'herpès plus connue sous le nom de zona, qui provient du latin et qui veut dire ceinture ou gaine. C'est très localisé. Okay. Hein. Alors, cette condition, elle est formée par la réactivation du virus de la varicelle, encore une fois. Hein. Après avoir vaincu la varicelle, le virus se cache dans le corps et, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires, il se réveille et cause des lésions le long du trajet d'un nerf. C'est toujours le long du trajet d'un nerf. Avant l'apparition des ampoules, la personne peut ressentir des sensations inhabituelles de douleur ou une sensibilité accrue. Puis les éruptions apparaissent et le fluide à l'intérieur de ces petites ampoules, c'est lui qui contient le virus de la varicelle actif. Et la transmission de ce virus est possible, d'ailleurs, si une personne qui n'a jamais eu la varicelle entre en contact avec le fluide. Donc ça, c'est bien important. Hein? Une fois que les ampoules sont séchées, le risque de transmettre une maladie est presque nul. Par contre, pour la personne qui l'a, même si les lésions ont disparu, elle peut souffrir d'une douleur persistante, parfois même débilitante, qu'on appelle névralgie post-herpétique. Donc, pour expliquer la douleur, la théorie veut que la douleur soit reliée au virus parce qu'il se reproduit activement, ainsi que l'inflammation provoquée par sa présence qui détruit le tissu nerveux et qui augmente la sensation des récepteurs à la douleur. Alors, pour réduire la durée de la maladie et le risque de développer la complication en question, donc les névralgies post-herpétiques, il est primordial de consulter dans les 72 heures. Ça, c'est vraiment important qui suit l'apparition des premières ampoules. Parce qu'il existe des médicaments antiviraux qui peuvent être prescrits, mais après 72 heures, ils pourraient ne pas être efficaces. C'est un petit peu tard, voilà, exactement. Donc, si jamais vous avez dans votre entourage, moi, ça m'est arrivé, maintenant, je sais que je reconnaîtrai 72 heures, pas plus.
Hein. Et c'est très souffrant.
Hein. C'est horriblement souffrant. Ouais. Les lésions nécessitent d'être traitées comme une plaie pour éviter l'infection. Alors évidemment, les recommandations données par le docteur Schulman, c'est de laver soigneusement la région deux fois par jour avec un savon doux non parfumé, bien sûr. Couvrir les ampoules avec des vêtements propres pour éviter que les sécrétions se propagent chez une autre personne, c'est également recommandé. On peut donner, dans si l'inconfort, la douleur est très violente, des anti-inflammatoires, des acétaminophènes. Et même si la douleur est très forte, parce qu'elle peut être très forte, et souvent elle est très forte, on peut aller même à de la codéine ou des plus puissants antidouleurs comme l'oxycodone. Alors, il est très peu probable que le zona réapparaisse et que le traitement... Mais le traitement doit être répété en raison des douleurs causées par la névralgie. Donc, le Comité consultatif national de l'immunisation recommande aux adultes qui n'ont pas de contre-indication de se faire vacciner. On revient encore au vaccin, hein, comme tout à l'heure.
Vaccin.
Maintenant, il y a un vaccin, je crois qu'il est assez récent, hein,
oui,
quand même.
Oui,
hein.
Tout à fait. On fait une publicité, d'ailleurs, là-dessus.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc là, dans l'article, vraiment, le Dr Schulman recommande absolument de se faire vacciner contre le zona lorsqu'ils atteignent 60 ans. Et la plupart de ceux qui ont souffert de la douleur d'une attaque de zona témoigne que ça vaut le coup de payer pour le prix du vaccin.
Et ça peut durer plusieurs semaines, même plusieurs mois, de ce que j'ai constaté.
Oui, absolument, absolument. Alors ça, il s'agissait d'un article de Montréal en santé de l'hiver 2015.
Je pense qu'on est dû d'aller au joyeux festin, là, je pense.
Oui. Ben, on va parler de choses, c'est plus sympa, ça. Hein. Pour terminer sur un sujet nature-gastronomie, et malgré notre printemps débutant, c'est un article de Montréal en santé encore, d'un auteur non précisé, qui nous propose des aliments capables de nous stimuler au sortir de l'hiver. Alors, quelques exemples de petits bonheurs dans nos assiettes. Le saumon, d'abord. Alors, profitez des vendredis poissons, si ça existe encore, pour remplir votre organisme de vitamine D. Le brocoli, il est souvent mal perçu, hein, mais pourtant, c'est plus qu'un simple accompagnement parce qu'il contient du chrome en quantité importante. Et il aide aussi à augmenter le niveau de sérotonine, de norépinéphrine, ce sont des neuromédiateurs, et la mélatonine, c'est l'hormone miracle, l'antioxydant, rajeunissant, somnifère, donc ce qui contribue à régulariser l'humeur.
Étonnamment, j'en ai toujours dans mon frigo.
Bon, ben voilà, c'est toujours. Pour ça que tu es toujours de bonne humeur. Oui, on aime ça. Oui. Parfait.
En général.
Il y a des recettes géniales, je vous en donnerai si vous voulez.
D'accord.
Les épinards, ils ne sont pas toujours très aimés non plus.
Oh, hein. Mais c'est tellement bon.
Moi aussi, j'aime. Mais quand on était enfant, on n'aimait pas ça. Hein?
Non, c'est vrai.
Alors, régalez-vous maintenant, parce que vous allez dévorer tout plein de magnésium pour remonter encore une fois le niveau de sérotonine, pour aider à combattre l'anxiété, si vous l'êtes, l'insomnie, la fatigue. Et ce sont les ennemis du bonheur et de la vitalité. Alors, mangez des épinards.
Et l'histoire de papaye est totalement fausse. Hein?
De papaye? D'accord. OK, t'as vérifié, c'est ça? Donc, les noix de cajou aussi, elles sont remplies de zinc. C'est un élément qui aide à diminuer les symptômes de la dépression. Et il y a même des essais cliniques qui démontrent que le zinc peut améliorer la réaction aux antidépresseurs. Alors, bon appétit.
Merci.
Ah, pour faire suite à ce que je mentionnais tout à l'heure sur les voyages, quelques conseils à suivre en voyage. D'abord, faites attention à ce que vous buvez. L'eau peut être contaminée par des bactéries, des parasites, des virus qui peuvent provoquer des troubles digestifs, la diarrhée du voyageur, par exemple. Donc, être certain de boire une de nos bouteilles qui est bien scellée. Hein? Et évidemment, aussi café, des choses semblables. Choisissez bien votre nourriture. Les aliments aussi peuvent être contaminés. Et pour réduire les risques de tomber malade, on devrait toujours consommer des aliments bien cuits et éviter des produits laitiers, entre autres choses. Se protéger des insectes. Hein, je vous parlais de malaria tout à l'heure. Alors, les insectes peuvent transmettre certaines maladies comme la malaria, la dengue, l'encéphalite japonaise, la fièvre jaune. Et pour les destinations à risque, ben, il y a certains médicaments ou vaccins qui pourraient être nécessaires. Aussi, très important, souvent oublié, évitez de vous baigner dans les plans d'eau douce. Parce que dans plusieurs pays en voie de développement, l'eau douce peut être infestée de larves, de parasites qui peuvent pénétrer sous la peau et causer de très graves maladies qui peuvent même être mortelles. J'ai un copain qui en a été atteint en se baignant en Afrique. Parfois, il fait très chaud, on plonge à l'eau. C'est pas une bonne idée. Et enfin, je le mentionnais tout à l'heure, visitez une clinique santé voyage. On va vous dire les endroits à risque, on va vous dire les vaccins à avoir avant de partir. C'est absolument fondamental.
Merci.
Mon cadenas, c'est ma selle. Une PME israélienne en démarrage a fait tout un tabac en récoltant plus de 170 000 $ sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter avec son projet de cadenas à vélo intégré à une selle. Le cadenas s'installe ou s'enlève en 30 secondes et est disponible en plusieurs couleurs éclatantes. Une housse en néoprène est aussi offerte.
Parfait!
Alors, je crois que ceci nous amène à la fin de l'émission. On vous remercie de nous être fidèles. On continue à vous alimenter en voyage, en nature et en science. Ah, merci à André, merci à Yvan.
Un beau bonjour.
Ça nous a fait plaisir.
Et merci particulier aussi à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en
onde
de choix musicaux. Et ben, écrivez-nous, hein, envoyez-nous vos commentaires, vos questions à canalm.org et à ouvusezvoix.com. Bonne journée. Ah.